Chapitre 7. Les jeux et la photographie. Mon don pour les jeux a toujours été une surprise pour moi. Ce qui me surprenait plus encore, c'était d'exceller particulièrement dans deux d'entre eux. L'un était la pelote, l'autre le squash. La pelote, dont nombre d'entre vous n'ont sans doute jamais entendu parler, était prise très au sérieux à Repton, et nous disposions d'une douzaine de cours protégés d'une verrière et toujours parfaitement entretenus. Nous pratiquions la pelote d'Eton, qui est toujours jouée par quatre personnes, deux dans chaque camp, et consiste principalement à frapper de la main gantée une petite balle dure recouverte de cuir blanc. Les Américains ont un jeu similaire, qu'ils appellent le handball, mais la pelote d'Eton est beaucoup plus compliquée, car le mur comporte toutes sortes de niches et de parties saillantes qui contribuent à en faire un jeu subtil et délicat. La pelote est probablement le jeu de balle le plus rapide au monde. Beaucoup plus rapide que le squash, et la petite balle rebondit tout autour du court à une telle vitesse que parfois on la voit à peine. Il faut un œil rapide, des poignets robustes et des mains extrêmement agiles pour bien jouer à la pelote, et ce jeu me passionna tout de suite. Vous aurez peut-être du mal à le croire, mais je fis rapidement de tels progrès que je remportai le championnat junior et senior de l'école au cours de la même année, celle de mes 15 ans. Bientôt, je me vis attribuer le merveilleux titre de « capitaine de pelote ». Et je me rendis avec mon équipe à d'autres écoles comme Shrewsbury et Uppingham pour y disputer des matchs. J'adorais ça. C'était un jeu sans contact physique où seul comptait la rapidité de l'œil et l'agilité des pieds. Le capitaine de n'importe quel jeu à Repton était un personnage important. C'était lui qui choisissait les membres de son équipe pour les matchs. Lui et lui seul pouvait décerner les couleurs aux autres. Pour ce faire, il se dirigeait vers le garçon choisi après un match et lui serrait la main en disant « Hip hip, bienvenue dans l'équipe !» C'était là une formule magique. Grâce à elle, le nouvel équipier avait droit à toutes sortes de privilèges, y compris un ruban de couleurs différentes autour de son canotier, des tresses fantaisie pour border son blazer, des vêtements de sport d'une couleur différente et une foule d'autres détails qui vous faisaient glorieusement ressortir parmi la foule de vos camarades. Le capitaine de n'importe quel sport, football, cricket, pelote ou squash, avait nombre d'autres obligations. C'était lui qui fixait au tableau d'affichage de l'école la notice annonçant les dates et où son équipe devait disputer les prochains matchs. C'était lui qui écrivait aux autres écoles pour convenir du jour des rencontres. Lui, et lui seul, avait autorité pour inviter tel ou tel maître à jouer contre lui et son équipe certains après-midi. Toutes ces responsabilités me furent confiées lorsque je devins capitaine de pelote. Il y avait néanmoins un hic. Il était plus ou moins admis qu'un capitaine était nommé buzzer en reconnaissance de ses talents. Sinon buzzer de l'école, du moins buzzer d'une maison. Mais j'étais mal vu des autorités, on ne pouvait me faire confiance, je ne respectais pas les règles. J'étais imprévisible, je n'avais donc pas l'étoffe d'un buzzer. Il n'y avait aucune chance pour qu'ils acceptent de me nommer buzzer d'une maison, encore moins buzzer de l'école. Certains sont nés pour exercer le pouvoir, assumer une autorité. Je n'étais pas de cela. Je ne fis aucune objection aux explications du préfet des études à ce sujet. J'aurais fait un déplorable buzzer. J'aurais trahi le principe même de cette noble institution en refusant de rosser les fagues. Je fus sans doute l'unique capitaine d'un sport quelconque à n'être jamais devenu buzzer à Repton. Je fus très certainement l'unique double capitaine à ne pas accéder à ce grade, car j'étais également capitaine de squash. Et, accumulant les titres de gloire, je faisais en plus partie de l'équipe de football de l'école. Un garçon doué pour les sports est en général traité fort civilement par les maîtres dans un collège privé anglais. De la même façon, pourrait-on dire, les Grecs de l'Antiquité vénéraient leurs athlètes et leur érigeaient des statues de marbre. Les athlètes étaient des demi-dieux, des êtres d'exception. Ils pouvaient accomplir de prestigieux exploits, inaccessibles au commun des mortels. De nos jours, encore, les champions de football, de baseball, de course à pied, ainsi que tous les autres grands sportifs, jouissent d'un grand prestige populaire et les publicistes se servent d'eux pour vendre les céréales du petit-déjeuner. Je n'ai jamais atteint ce stade, et si vous voulez vraiment le savoir, je m'en réjouis. Comme j'adorais le sport et les jeux, la vie pour moi, Repton, n'était pas totalement dénuée de plaisir. Il est toujours amusant de pratiquer un sport à l'école si l'on a des aptitudes particulières, mais dans le cas contraire, c'est un cauchemar. J'avais la chance d'être parmi les meilleurs, et tous ces après-midi passés sur les terrains de jeu et sur les cours de pelote et de squash faisaient oublier un peu la grisaille et la mélancolie des journées. Une autre activité me procura le plus vif plaisir dans ce collège, la photographie. J'étais le seul élève à m'y exercer sérieusement, et il y a 50 ans, c'était loin d'être aussi simple que maintenant. J'avais aménagé une petite chambre noire dans un coin de la salle de musique, et c'était là que je chargeais mes plaques, développais mes négatifs et les agrandissais. Notre professeur d'art était un homme timide et réservé du nom d'Arthur Norris, qui ne se mêlait guère aux autres professeurs. Arthur Norris et moi devînmes de bons amis, et au cours de ma dernière année au collège, il organisa une exposition de mes photographies. Il consacra tout le local de l'atelier d'art à ce projet et m'aida à faire encadrer mes agrandissements. L'exposition eut pas mal de succès, et des maîtres qui ne m'avaient pratiquement pas adressé la parole pendant 4 ans venaient me dire « C'est tout à fait extraordinaire. Nous ne savions pas que nous avions un artiste parmi nous. Elles sont à vendre. » Arthur Norris m'offrait du thé et des gâteaux dans son appartement et me parlait de peintres comme Cézanne, Manet, Matisse. Et j'ai l'impression que ce fut là, en prenant le thé avec l'affable M. Norris dans son appartement, le dimanche après-midi que naquit ma grande passion pour les peintres et pour leur œuvre. Une fois sorti du collège, je continuai pendant longtemps à faire de la photographie et je devins un spécialiste averti. De nos jours, nanti d'un appareil photo 35 mm avec pose-mètre incorporé, n'importe qui peut passer pour un expert. Mais il y a un demi-siècle, le problème était différent. Je me servais de plaques de verre et non de pellicule. Et avant toute chose, chacune d'entre elles devait être chargée dans son étui individuel dans la chambre noire. J'emportais en général 6 plaques chargées et je ne pouvais donc prendre que 6 clichés. Appuyer sur l'obturateur ne fût-ce qu'une fois demandait réflexion. Et toute décision devait être mûrement pesée. Peut-être ne me croirez-vous pas, mais à l'âge de 18 ans, il m'est arrivé de gagner des prix et des médailles à la Royal Photographic Society de Londres, ainsi que dans d'autres endroits, comme la Société photographique de Hollande. Je me suis même vu décerner une superbe médaille de bronze par la Société photographique égyptienne au Caire, et je possède encore le cliché qui m'a valu cette distinction. C'est une photo de l'une des 7 merveilles du monde, selon l'expression consacrée, l'arche de Ctésiphon en Irak. C'est la plus grande arche d'une seule portée du monde et j'ai pris la photo alors que je suivais là-bas une période d'entraînement sur une base de la RAF en 1940. Je volais en solo au-dessus du désert, aux commandes d'un biplan Hawker Hart, et j'avais mon appareil photo accroché autour du cou. Lorsque j'aperçus cette arche gigantesque isolée au milieu d'une mer de sable, je me penchais sur l'aile et, retenu par mon harnais, je lâchais le manche à balai pour cadrer et appuyer sur l'obturateur. La photo fut très réussie.